Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'épître de cette messe, saint Paul rappelle aux Corinthiens ce qu'il leur a enseigné sur la Sainte Eucharistie et par suite le souverain respect qui est dû à ce Saint-Sacrement. Il commence par leur redire ce qui s'est passé à la dernière scène. C'est en substance le même récit que celui des évangélistes. La simplicité et la précision des paroles de notre Seigneur affirment la présence réelle sans laisser prise à la discussion. Nos sens et notre intelligence restent frustrés, il ne peut en être autrement, car la Sainte Eucharistie est un mystère de foi. C'est un mystère de foi. Dans le discours sur le pain de vie, un an auparavant, donc quand notre Seigneur, le lendemain de la multiplication des pains, Jésus expose à son auditoire deux mystères de foi étroitement liés. Il se présente d'abord comme le pain de vie descendu du ciel, et celui qui croit en lui a la vie éternelle, et il le ressuscitera au dernier jour. Il s'agit là de la foi au mystère de l'incarnation. Si on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, voilà, on s'approche de Dieu et on a la foi. Ensuite, notre Seigneur précise son discours. Il passe du pain spirituel au pain qui est sa chair et dont les paroles sont rapportées dans l'Évangile. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. Dans ce discours, Jésus ne dit pas encore comment il donnera son corps en nourriture et son sang en breuvage. C'en est seulement l'annonce, mais les paroles sont claires. Parmi la foule des auditeurs, il y avait de nombreux disciples qui, n'ayant pas la foi, murmuraient, trouvant ces paroles trop dures à accepter. On peut les comprendre. Car pour un juif, manger de la chair humaine et boire du sang humain, alors que la loi mosaïque défend même de manger des animaux non saignés, était une abomination. Mais loin d'adoucir ces paroles, Jésus les confirme. Et il leur dit, « Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Il fait allusion à sa résurrection et son ascension. « Que diriez-vous alors ?» C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les auteurs spirituels expliquent le sens de ces dernières paroles ainsi. Si le Fils de l'homme est capable de remonter au ciel, il saura bien trouver le moyen de donner sa chair en nourriture et son sang en breuvage. Car qui peut le plus peut le moins. Il est clair que l'annonce de la Sainte Eucharistie est un mystère de foi, mystère complètement inintelligible pour ceux qui n'ont pas cette foi. Et c'est là le grand obstacle insurmontable dont se plaint notre Seigneur lorsqu'il dit « Il en est quelques-uns parmi vous qui ne croient pas ». Il ne faut pas oublier qu'il fait ce discours sur le pain de vie, après pendant 2 ans fait des miracles qui prouvaient sa divinité. Les conséquences de ce manque de foi sont immédiates. Un grand nombre de disciples quittent Jésus. Le Sauveur ne cherche pas à les retenir. Il se tourne alors vers les apôtres et leur dit « Et vous, est-ce que vous voulez aussi vous en aller ?» Pour saisir les paroles de la promesse, il faut commencer par un acte de foi. Et c'est ce que fait saint Pierre au nom des apôtres en répondant à Jésus. « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. » Ils ne comprennent pas plus que les auditeurs qui n'ont pas la foi. Mais eux ont la foi, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu, et donc ils croient sa parole. Ces deux mystères, le mystère de l'incarnation et le mystère de la Sainte Eucharistie, sont étroitement liés. La Sainte Eucharistie suppose le mystère de l'incarnation, elle le continue, elle le prolonge, elle le multiplie, pour ainsi dire. Nous adorons sous l'autel, et nous adorerons cet après-midi dans l'ostensoir, le corps, l'âme, l'humanité tout entière, unie hypostatiquement à la personne divine. Nous pourrons dire, c'est là le Verbe incarné. Voyez quelle est la sagesse et l'amour de notre Seigneur. Il devait remonter au ciel, et il avait promis à ses apôtres de rester avec eux jusqu'à la fin du monde. Et non pas d'y rester comme il avait été jusqu'à maintenant en Palestine, dans un lieu donné, mais après sa résurrection, il sera dans tous les lieux de la terre, dans tous les tabernacles, et il pourra se donner à chacun des fidèles qui croient en lui. La solution qu'il a trouvée, c'est la Sainte Eucharistie. Cette foi nécessaire pour croire en l'Eucharistie est un don de Dieu. Ce don, pour la majorité d'entre nous, nous l'avons reçu au baptême, peu après notre naissance, sans démarche de notre part. Cette foi comporte des degrés. Nous croyons fermement à la présence de notre Seigneur au Saint-Sacrement. Cependant, il arrive souvent que nous ne prêtions pas attention à la grandeur de cette réalité, au point que nous pouvons rester froids, rester des semaines, des jours, sans aller visiter notre Seigneur dans le tabernacle, sans que notre vie soit centrée sur ce mystère d'amour. Si on nous disait que notre Seigneur nous attend en chair et en os à votre retour de la messe à la maison, tout glorieux comme dans son apparition au Cénacle aux apôtres, de sorte qu'on puisse le voir, le toucher, lui parler, alors on se précipiterait vers lui, le cœur débordant de joie. Pourtant, au Saint-Sacrement, c'est le même Jésus. Mais cela nous laisse tiède ou froid, car nos sens et notre intelligence nous sont d'aucun secours. Seule la foi nous fait saisir le mystère. Dans le discours sur le pain de vie, Jésus a laissé aux Juifs incrédules, a déclaré aux Juifs incrédules, pardon, « Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Alors, laissons-nous attirer par notre Père des cieux et faisons-lui des actes de foi qui nous inspirent. Redisons-lui souvent, « Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. » Nous avons entendu Jésus nous dire dans le discours sur le pain de vie, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Ces paroles semblent indiquer une nécessité absolue et sans condition de la réception de la Sainte Eucharistie pour le salut. Qu'en est-il de cette nécessité ? La doctrine chrétienne, s'appuyant sur l'Évangile et sur saint Paul, nous enseigne que la justification est obtenue par le baptême. Notre Seigneur l'a dit après la veille de son ascension, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Ainsi, un enfant qui meurt aussitôt après son baptême va droit au ciel. De même, un adulte qui se trouve dans l'impossibilité de recevoir le baptême, par exemple, quelqu'un sur un front de guerre qui se convertit, il voudrait se faire baptiser, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas de prêtre là, et il va mourir, eh bien, il peut être sauvé par le seul désir du baptême. Mais on ne peut pas appliquer cela à l'Eucharistie. Car l'enfant qui n'a pas encore l'usage de la raison ne peut désirer l'Eucharistie. Donc, si recevoir l'Eucharistie, au moins en désir, était absolument nécessaire pour être sauvé, eh bien, l'enfant baptisé qui va mourir juste après son baptême, mais sans recevoir l'Eucharistie, ne pourrait être sauvé. Donc, ce principe n'est pas valable. Alors, quelle est la solution du problème ? Puisque notre Seigneur semble dire que c'est une condition absolument nécessaire. Tous les sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie. L'Eucharistie est le sommet des sacrements. Le baptême en est la porte, mais l'Eucharistie en est le sommet. Ils nous orientent d'eux-mêmes vers l'Eucharistie. Ils sont une participation anticipée à l'Eucharistie. En les recevant, c'est déjà l'union au Christ qui se réalise par la grâce sanctifiante, en attendant la plénitude de cette union qui se produira par la réception fréquente du corps et du sang du Sauveur, jusqu'à l'union parfaite. Si le baptême est absolument nécessaire au salut, en nous donnant la vie de la grâce, l'Eucharistie, elle, est moralement nécessaire dès l'âge de raison, pour alimenter dans l'âme cette vie surnaturelle reçue au baptême, la rendre plus étroitement unie à notre Seigneur et la transformer dans celle de notre Seigneur pour parvenir à l'union où elle pourra dire avec saint Paul « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Pour stimuler la dévotion des fidèles en la Sainte Eucharistie, qui ont eu la grâce insigne de recevoir la foi par le baptême avant l'âge de raison, Dieu accorde parfois ce don de la foi à des personnes hostiles à la religion catholique fondée par notre Seigneur. En voici un exemple raconté par le père Carme, le père Augustin-Marie du Saint-Sacrement, à Lyon en 1857. Ce père, dont le nom civil est Hermann Cohen, pianiste de talent, élève et ami de Franz Liszt, est arrivé à Paris dès l'âge de 14 ans pour exercer son art. Il a été lui-même converti du judaïsme par le Saint-Sacrement. Et voici ce qu'il dit, alors qu'il est devenu père Carme, dans un sermon prononcé à Lyon. « Mon neveu Georges, âgé de 6 ans, vint me visiter avec ses parents, juifs comme lui, au monastère des Carmes près de la ville d'Agen. C'était à l'époque des belles processions de la fête Dieu. On avait inspiré à cet enfant une profonde horreur pour notre divin crucifié. Cependant, Jésus, depuis l'ostensoir, attira ce jeune cœur avec une si forte véhémence et une si forte douceur que l'enfant crut à la présence réelle de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de son amour avant de connaître aucune autre vérité de notre divine religion. Il obtint à force de supplications de pouvoir revêtir l'habit des enfants de cœur et de participer à la procession pour pouvoir jeter des pétales sous les pas de Jésus. Après la procession, il court tout joyeux, dira son père, « Quel bonheur, papa, je viens de jeter des fleurs au bon Dieu !» Dans la bouche d'un enfant juif, c'était toute une profession de la foi nouvelle. Le père, craignant qu'on ne le fît changer de religion, le surveilla de près et voulut rentrer à Paris sans délai, patientant pour quelques jours. Mais avant le départ, donc il y avait certainement plusieurs processions du Saint-Sacrement, la maman fut frappée de la même grâce, partie de la Sainte Eucharistie qui lui donna la foi instantanément. Elle se fit baptiser par son frère, reçut la communion de ses mains et le lendemain, l'évêque lui donna la confirmation. Donc tout cela dans le plus grand secret. Ensuite, 2-3 jours après, la famille rentre à Paris. Et cette famille juive comptait, sans le savoir, une chrétienne dans son sein. Cependant, Le petit Georges, marqué par l'événement qui lui était arrivé à Agen, posait des questions à sa mère sur ses fêtes chrétiennes. Alors, celle-ci, étant baptisée et allant en cachette assister à la messe et recevoir la Sainte Communion, était tout heureuse de pouvoir lui faire son instruction. Alors, Georges priait le soir, lorsque son père était endormi, il attendait ce moment-là, et il apprenait son catéchisme. « Ô mon Jésus, quand donc pourrais-je vous recevoir dans la Sainte Communion ?» Il lui faudra attendre 4 ans. En effet, la maman, elle s'est fait baptiser en secret, elle peut pratiquer en secret, mais pour l'enfant, c'est un peu différent, parce qu'il doit l'obéissance à son père, donc c'était assez délicat. Donc, elle attendait. Ce fut pour l'enfant un long martyre. Il devait en effet, au prix de gros sacrifices, concilier l'obéissance due à son père avec sa foi vive, son désir de devenir chrétien et de servir Jésus-Christ. 4 ans plus tard, un événement va faire précipiter les choses. Les premières communions ont lieu dans la paroisse et ça va être l'événement qui va faire demander à sa mère de faire venir le père Hermann, son frère, en secret à Paris pour pouvoir baptiser le petit Georges, car elle craignait qu'il demande à n'importe quel prêtre à Paris le baptême, et donc ça aurait pu faire de grandes difficultés dans la famille. Georges avait 11 ans, il reçut donc le baptême des adultes, et le père était stupéfait de ses réponses de foi. Donc le père Hermann lui demande « Que demandez-vous, mon enfant ?»« Le baptême. » « Mais savez-vous bien que demain, peut-être, on voudra vous contraindre à entrer dans la synagogue afin de participer à un culte aboli ?»« Ne craignez rien, mon oncle, j'abjure le judaïsme. » »« Mais si on voulait, avec menace, vous obliger à fouler aux pieds le crucifix en haine de notre divine religion, n'ayez pas peur, mon oncle, je mourrai plutôt. » « De grâce, mon oncle, accordez-moi le baptême. » Il est baptisé, et après le baptême, il va communier entre sa mère et sa marraine. Donc, toujours cela dans le secret. Il put encore communier quelques semaines après pour la fête de la Toussaint. Puis, ce fut l'épreuve. Son père l'invita, en effet, un jour, à prier avec lui. Alors, il lui déclara qu'il ne pouvait pas prier dans le livre des Israélites, car il était catholique. Et il a bien répondu en tout à son père, si bien que son père, voyant qu'il n'y avait rien à faire, décide, quelques jours après, de le conduire en secret en Allemagne, en plein pays protestant, où il n'y avait ni église ni prêtre catholique. Et il le place dans un pensionnat protestant. Et là, le pauvre Georges eut à subir pendant 3 ans des pressions pour renier sa foi. De plus, il était éloigné de sa maman, donc cela lui était très dur, mais il tint bon. Cependant, le cœur de son père se laissa attendrir par son épouse, et il lui permit de faire quelques visites à son fils, une ou deux par an, pas plus, et sans parler de religion. Finalement, après 3 ans, il aura pu communier une ou deux fois, faire ses Pâques, des choses un petit peu miraculeuses. Georges fut rendu à sa mère, il revint en France et il put pratiquer sa religion. Chers fidèles, vous allez recevoir au cours de cette messe notre Seigneur Jésus-Christ qui a enflammé de si grands désirs certaines âmes comme celle du petit Georges et de sa maman. Cet après-midi, vous allez accompagner notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, dans les rues du quartier. C'est notre Dieu Tout-Puissant, infiniment bon, qui veut nous unir à lui, afin de faire de nous des saints pour le paradis, et qui nous ressuscitera glorieux au dernier jour. Demandons-lui qu'un rayon de son amour touche notre cœur, comme il a touché celui du petit Georges et de sa maman, qu'il l'enflamme d'amour et affermisse notre volonté pour le servir fidèlement. Et rendons-lui grâce chantons-le avec saint Thomas. Que notre louange soit pleine, qu'elle soit sonore et joyeuse, que l'allégresse de notre âme soit jubilante. Que la très sainte Vierge Marie fasse monter notre action de grâce vers son divin Fils et nous accorde cette grâce d'une plus fervente dévotion envers le Saint-Sacrement. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.